Bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Staquet, qui remplace Valérie André, qui est souffrant. Donc, je vais vous faire une rapide présentation d'Anne, que vous connaissez. Donc, Anne Staquet a fait des études de philosophie aux universités de Liège, de Turin, de Bologne, à l'université Laval, dont elle est docteur, et à l'ULB pour son agrégation de l'enseignement supérieur. Alors, elle enseigne la philosophie à l'université de Mons. Elle a publié 5 essais philosophiques, un roman et plus d'une cinquantaine d'articles. Je vous épinglerai deux essais, donc L'utopie ou les fictions subversives et Descartes et le libertinage, paru en 2009. En 2011, elle a écrit un roman qui s'appelle Malentendu. Alors aujourd'hui, elle va aborder l'aspect éthique de l'œuvre de Sade à partir de son œuvre Justine ou les malheurs de la vertu.
Merci pour cette présentation. Ça fait drôle tout d'un coup de se retrouver de l'autre côté comme ça. Donc je vais essayer de vous parler de Sade, en effet. Mais avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, si j'ose dire, il me semble qu'il serait utile d'évoquer aussi le statut de l'œuvre de Sade qui est entre littérature et philosophie et peut-être même plus exactement à la fois littéraire et philosophique. Alors aujourd'hui, il est évident pour nous qu'il y a une différence importante entre philosophie et littérature. Mais il n'en a pas toujours été de même, et la distinction remonte justement à la fin du XVIIIe. Alors, il serait peut-être tentant de faire le rapprochement avec les sciences qui faisaient encore partie à la fin du XVIIe de la philosophie. Newton, je vous le rappelle, intitulait son traité traité de philosophie naturelle, mais je crois que ce serait erroné parce que si les sciences se sont distinguées de la philosophie, c'est vraiment en raison de méthodes et d'objets qui se sont distingués, tandis que la philosophie et la littérature ont été séparées pour des raisons externes et institutionnelles. Il y a eu des chaires de philosophie, des chaires de littérature dans les institutions, et ce n'est pas une volonté d'une ou de l'autre et une reconnaissance d'une véritable différence entre l'une et l'autre. Mais évidemment, à partir du moment où la distinction a été reconnue, elle a d'une certaine manière été assimilée par ces disciplines. Autrement dit, nombre de philosophes et nombre de littéraires se sont alors mis à écrire en philosophe et en littéraire. Avant, par exemple, contrairement aujourd'hui, en philosophie, la forme du traité n'était vraiment pas la forme privilégiée. C'était une forme parmi d'autres, et on trouvait également des dialogues, des aphorismes, des essais où se mêlaient récits et réflexions autant, si ce n'est davantage, que des traités et des ouvrages qui seraient plus purement théoriques, pourrait-on dire. Mais évidemment, même après cette distinction-là, il y a toujours eu des auteurs qui ont refusé d'une certaine manière la distinction, qu'on pense à Kierkegaard, à Schopenhauer ou à Nietzsche. Mais il semble bien qu'après la Révolution, la tendance générale soit à marquer des différences. Alors bien sûr, je ne prétends pas que n'importe quel texte pourrait indifféremment passer pour un texte littéraire ou philosophique, parce qu'on a pris aussi l'habitude de les distinguer, mais qu'il y a, me semble-t-il, beaucoup plus de similitudes entre les ouvrages de philosophie et de littérature qu'on ne le pense et qu'on ne le conçoit habituellement quand on oublie que la séparation vient de raisons étrangères à leur nature propre. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, au premier coup d'œil, nous savons à coup sûr être face à un ouvrage de philosophie ou de littérature? Il me semble qu'il y a deux éléments qui nous donnent cette indication. Le premier, c'est le classement de l'ouvrage dans les librairies ou les bibliothèques. Et le deuxième, c'est la connaissance que l'on a de l'auteur qui est situé d'un côté ou de l'autre, mais que ce sont essentiellement là des raisons externes aux ouvrages eux-mêmes. Et pour essayer de vous convaincre de ça, je vous propose une petite expérience. Je vais vous lire quelques extraits et vous demander si on est du côté de la philosophie ou de la littérature, en vous demandant d'être attentif plutôt au langage même, pour voir s'il y a un signe dans les œuvres elles-mêmes. Alors, pour le vertueux, ainsi coule le jour. Vienne à présent la nuit, bien je me garde d'appeler le sommeil. Il ne veut être appelé ce sommeil qui est le maître des vertus. Avez-vous une idée? Bon, vous voyez, la vie est partagée. C'est tiré d'Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Alors évidemment, vous n'allez pas manquer de me faire remarquer que j'ai choisi un cas particulier avec Nietzsche, mais qu'il aurait sans doute été autrement si j'avais pris d'autres auteurs. Alors c'est vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Et je vais vous proposer vraiment de poursuivre un peu notre expérience et je vais vous lire à la suite 5 extraits et vous demander de jouer à les classer en prenant en note 1, 2, 3, 4, 5, de quel côté vous classez. On regardera après si je me trompe en pensant qu'il est difficile de distinguer les textes de l'un ou de l'autre. Alors, premier extrait. « J'avoue, répliqua Déméa, que mon opinion est que tout homme sent, en quelque façon, la vérité de la religion dans son propre cœur, et que par le sentiment intime de sa faiblesse et de sa misère, plutôt que par aucun raisonnement, il est conduit à recourir à la perfection de cet être dont il dépend, ainsi que toute la nature. Les plus brillantes scènes de la vie sont obscurcies par les nuages de tant d'inquiétudes et d'ennuis, que l'avenir est toujours l'objet de nos craintes et de nos expériences. Nous regardons toujours devant nous et nous tâchons, à force de prières, d'hommages et de sacrifices, d'apaiser ces puissances inconnues que nous savons, par expérience, être si fort en état de nous affliger et de nous accabler. Pauvres créatures que nous sommes, quelle ressource au milieu de tant de maux innombrables de la vie si la religion ne nous fournissait quelques moyens expiatoires et ne calmait cette erreur qui nous trouble et nous tourmente sans cesse. Je vous laisse classer, on regardera au bout des 5. Alors, deuxième extrait. Cette impossibilité de se comprendre n'est peut-être pas si terrible. Il est certain que deux peuples et deux langues ne communiqueront jamais ensemble avec autant de compréhension et d'intimité que deux individus qui ont en commun la nation et le langage. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à se comprendre et à refuser le dialogue. Entre personnes d'un même peuple et d'une même langue, il existe aussi des barrières qui empêchent une parfaite communication et une pleine compréhension réciproque. Les barrières de la culture, de l'éducation, du talent, de l'individualité. On peut affirmer que tout homme sur Terre peut, en principe, affirmer ses idées à n'importe quel autre, et on peut prétendre qu'il n'y a pas deux êtres au monde à qui il soit possible de communiquer entre eux et de se comprendre vraiment, totalement, intimement. Les deux thèses sont aussi vraies l'une que l'autre. Alors, je passe au troisième extrait. En effet, après les hommes politiques, j'allais trouver les poètes, auteurs de tragédies, de dithyrambes et autres, sûrs de me prendre là en flagrant délit d'infériorité par rapport à leur science. Je me munis donc des poèmes qu'ils paraissaient avoir le plus travaillé et je leur demandais ce qu'ils voulaient dire, afin de m'instruire un peu du même coup auprès d'eux. Eh bien, je rougis, messieurs, de vous dire la vérité. Néanmoins, il faut parler. Oui, pour ainsi dire, tous ceux qui étaient présents, ou peu s'en faut, auraient mieux parlé qu'eux des textes qu'ils avaient composés eux-mêmes. Alors, quatrième extrait. Nous passerons un instant dans le creuset de la nature pour en rejaillir sous d'autres formes, et cela sans qu'il y ait plus de prérogatives pour celui qui follement encensa la nature que pour celui qui se livra aux plus honteux excès, parce qu'il n'est rien dont la nature s'offense et que tous les hommes également sortis de son sein, n'ayant agi pendant leur vie que d'après ses impulsions, y retrouveront tous, après leur existence, et la même fin et le même sort. Alors, dernier extrait. À l'homme, la mort prend son corps. Vivant, l'individu est synonyme de son corps. Ensuite, il y a lui et il y a sa dépouille. On dit, voici le corps de X, comme si ce corps, qui un jour a été l'homme lui-même, non sa représentation ni sa propriété, mais l'homme même connu sous le nom de X, soudain n'avait plus d'importance. Quand quelqu'un entre dans une pièce et que vous échangez une poignée de main, ce n'est pas avec sa main ni avec son corps que vous avez l'impression de l'échanger. C'est avec lui. La mort modifie cela. Voici le corps de X et non pas voici X. Toute la syntaxe est différente. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Le premier extrait est un extrait de Hume, donc habituellement classé en philosophie. Le second extrait est un extrait du Jeu des perles de verre de Hermann Hesse, donc littérature. Troisième extrait de Platon, philosophie. Quatrième extrait de Sade, qui est habituellement plutôt présent dans la littérature, bien entendu. Et puis, dernier extrait de Paul Auster dans l'invention de la solitude. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont tous trouvés. Non. C'est bien sûr tiré du contexte. Bien sûr, c'est la manière d'écrire et c'est là-dessus que je souhaite venir. On peut trouver des textes philosophiques ou littéraires qui, indépendamment, qui en eux-mêmes ont une réflexion et qui ne se distinguent pas. Et j'ai pris exprès des auteurs de différentes périodes et qui se trouvent avant ou après la séparation, pour vous montrer combien on peut avoir des doutes quand on regarde le texte lui-même et que c'est bien souvent des éléments étrangers qui nous font classer l'auteur d'un côté ou de l'autre, étranger au texte lui-même. Alors bien sûr, ce sont des extraits et il en aurait été autrement si on avait l'ensemble de l'œuvre, c'est vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Et je crois que justement avec l'œuvre de Sade, par exemple, on a un bon exemple d'un auteur qui se trouve vraiment à la fois en philosophe et en littéraire, pour utiliser les terminologies d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens chez lui. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les textes, mais qu'il n'y en a peut-être pas toujours et qu'elles sont comme chez Sat, et qu'elles sont souvent moins importantes qu'on ne l'imagine aujourd'hui, où on a pris l'habitude de ces catégories. Et j'insiste là-dessus parce que ces œuvres-là, comme celle de Sat, posent des problèmes particuliers d'interprétation. Par exemple, dans les œuvres plus littéraires, l'auteur exprime des idées ou les expérimente à travers l'ensemble de son œuvre et à travers ses personnages. Alors que quand on a dans les textes dits plus philosophiques une voix bien clairement identifiée, et on pourrait avoir tendance, et je crois que ce serait une erreur, d'identifier un personnage comme porte-parole et comme la voix de l'auteur. On est donc dans ces œuvres-là, toujours dans une perspective polyphonique. De la même manière, on a un propos de l'auteur qui est indirect dans le sens qui se traduit, qui se présente à travers des intermédiaires, ce qu'on n'a pas habituellement dans la forme du traité où l'auteur dit clairement et directement ce qu'il pense. Et cela fait que dans le traité pur qu'on associe aujourd'hui en général à l'ouvrage philosophique, on a en général l'auteur en général essaye de simplifier, d'exposer son propos de manière la plus simple et la moins ambiguë possible. Dans les textes à caractère plus littéraire, souvent l'auteur complexifie son point de vue de telle manière qu'on a parfois du mal à le déterminer clairement. On va avoir dans ces textes beaucoup plus aussi l'usage de l'ambiguïté et de l'ironie. De manière générale, je dirais que dans les ouvrages à caractère littéraire, qu'ils soient philosophiques ou non, l'auteur a une certaine tendance à cacher sa propre voix derrière son œuvre, alors que dans les ouvrages de la forme du traité, l'œuvre sert à exprimer la voix de l'auteur. Donc là, on a une position. Alors ça pose déjà toute une série de difficultés pour exposer, pour analyser des œuvres de ce type. Il y en a d'autres particulières alors à l'étude de Sade. La première d'entre elles, c'est évidemment la réputation de celui qui, par référence à un des premiers auteurs érotiques, Pierre Arétin, se nomme le divin marquis. Arétin se disant le divin poète. Et je crois que cette réputation empêche, du moins en partie, de voir l'œuvre et de l'analyser telle qu'elle. Et je voyais ici, pour parler de cette réputation, ce que Bonaparte dit à propos de la lecture de Justine, le livre le plus abominable qu'ait enfanté l'imagination la plus dépravée. Que de superlatifs. Alors, Simone de Beauvoir, tout en ayant une autre perspective, mais qui rappelle aussi l'aspect de provocation et difficulté à lire, intitule son essai « Faut-il brûler Sade ?» Et ce faisant, elle met immédiatement en évidence deux aspects essentiels qui se posent à la lecture de cet auteur, la question morale que pose sa lecture et aussi la provocation qu'il y a incontestablement dans son œuvre. Il me semble que généralement, rien que le fait de traiter cet auteur, sauf si c'est pour le condamner assez vite ou comme curiosité, pose souvent problème, surtout si c'est du point de vue moral. Or, ce que je vais faire ici, c'est essayer justement de vous montrer l'intérêt de l'œuvre de Sade pour une réflexion sur la morale. On verra à la fin si j'ai réussi à vous convaincre de cet intérêt. Alors, remarquons déjà que c'est moins par sa vie que par ses œuvres que Sade a péché contre la morale. Il a bien commis l'un ou l'autre acte allant à l'encontre de ce que nous admettons, mais vu l'époque et les mœurs d'alors, c'était somme toute fort peu de choses. Il était l'amant de nombreuses courtisanes et comédiennes, mais c'était évidemment une chose tout à fait courante pour un jeune noble du XVIIIe. Le premier méfait qui l'a amené en prison est le fait qu'il aurait fessé une servante. Alors, même de nos jours, ça prête un peu à sourire. Or, que penser de ce comportement à une époque où les servantes étaient régulièrement troussées par leur maître sans que grand monde n'y trouve à redire? Or, l'histoire ne dit même pas si c'était une punition ou dans un jeu érotique. Alors, d'autres rumeurs précisent qu'il a parfois offert des bonbons. Alors, selon les sources, on dit aphrodisiaque ou drogué, et à des filles qu'il aurait sodomisées. Là non plus, on ne précise pas si elles étaient ou non consentantes. Alors, mon but n'est pas évidemment d'approuver ou non un tel comportement, mais vous reconnaîtrez que c'est fort peu de choses pour celui dont le nom a donné le terme de sadisme. Alors, un autre fait, en fait, a joué bien davantage pour marquer et forger sa réputation. Il a eu une liaison avec sa belle-sœur, religieuse, qui était dans un couvent. Il l'a enlevée des murs qui la cloîtraient. Alors, la belle-sœur en question était tout à fait consentante. Mais les parents de la jeune nonne n'ont pas vu les choses d'un aussi bon œil. Et le fait que le beau-père de Sade était président de la cour est pour beaucoup dans les trois décennies que Sade passera en prison dans l'entièreté de sa vie. Alors, il n'était pas un ange, bien sûr, mais l'histoire le montre autant victime d'un abus de pouvoir et honté de sa belle famille que monstre. Il a passé exactement 27 ans en prison et il y est mort encore pendant... Il est mort dans un asile où il a passé dans un plus grand confort les 14 années qui ont précédé sa mort. Alors, bien que d'origine noble, il n'a pas hésité à prendre parti pour la Révolution française, comme vous le savez sans doute, tant dans ses œuvres que dans sa vie. Plus exactement, peu après sa libération de 1790, parce qu'il n'a pas passé à la suite tout ce temps en prison, il se met au service de la section des Piques, celle à laquelle appartient Robespierre, où il fait office de secrétaire puis de président de cette 9e section. Il y œuvre essentiellement contre la religion. Mais Robespierre déteste l'athéisme et l'anticléricalisme et il va le prendre en grande aversion, de sorte qu'il est enfermé une nouvelle fois pour raisons politico-religieuses en décembre 1793, puis condamné à mort le 26 juillet 1794. Il va réussir à disparaître et la chute de Robespierre lui apportera quelques répits. On le voit à nouveau, d'une certaine manière, victime sous une autre forme peut-être d'un abus de pouvoir. Rares sont les hommes qui ont été aussi haïs que ça. À titre d'exemple, je vous cite ce qu'il est dit dans la revue L'Ami des lois du 29 août 1799. On assure que ça des morts. Le nom seul de cet infâme écrivain exhale une odeur cadavéreuse qui tue la vertu et inspire l'horreur. Il est l'auteur de Justine ou les malheurs de la vertu. Le cœur le plus dépravé, l'esprit le plus dégradé, l'imagination la plus bizarrement obscène ne peuvent rien inventer qui outrage autant la raison, la pudeur, l'humanité. Vous voyez, c'est le lyrisme et l'éloquence contre Sainte. Mais bien davantage que sa vie, c'est son œuvre qui me semble être intéressante. Alors, elle est très importante et je vais me consacrer ici à l'étude d'un seul texte, mais un texte tout à fait particulier, Justine ou les malheurs de la vertu. Je n'ai pas trouvé, hélas, une reproduction de meilleure qualité, parce que c'est une œuvre auquel il tient. Il l'a réécrit et à quatre reprises, de 1787 à 1797. Et cela me semble très significatif de l'intérêt qu'il témoigne, parce qu'il l'a réécrit, il l'augmente chaque fois, il le développe. C'est pas que les versions précédentes ne le satisfont pas, il en rajoute, il reprend au part d'un petit conte écrit en 16 jours qui n'est pas très volumineux, jusqu'à la dernière version qui fait 1500 pages. Donc c'est vraiment une œuvre sur laquelle il va beaucoup s'arrêter. Alors, bien sûr, il ne le reconnaît pas toujours, et à son avocat Reynaud, en mars 1791, il écrit qu'il renie carrément cette œuvre. On imprime actuellement un roman de moi, mais trop immoral pour être envoyé à un homme aussi pieux, aussi décent que vous. J'avais besoin d'argent, mon éditeur me le demandait bien poivré, et je lui ai fait capable d'empester le diable. On l'appelle Justine ou les malheurs de la vertu, brûlez-le, ne le lisez point, s'il tombe entre vos mains, je le renie. Alors, il me semble qu'il ne faut pas prendre tout à fait à la lettre ce rejet de l'ouvrage par l'auteur, parce qu'il faut tenir compte des circonstances. Il a besoin à ce moment du soutien de son avocat et cherche aussi une excuse acceptable au moment où il doit passer en jugement. Or, le besoin d'argent est peut-être réel, mais il n'expliquerait pas les nombreuses réécritures de l'histoire, même après cette date-là. Ce qui montre bien, ni même l'amplification constante de celle-ci, ni non plus le fait qu'il fait un récit bien plus scandaleux encore que ne l'exigeait l'auteur. Donc je crois qu'il faut prendre cette assertion de Sade avec un peu de distance. Alors c'est intéressant aussi qu'il ait réécrit l'histoire aussi souvent, parce qu'il y a des éléments que l'on va retrouver de la première version à la dernière et qui pourraient autrement être considérés comme un peu étranges et peut-être, tiens, comme une maladresse, une erreur, un oubli de l'auteur. Mais si on les retrouve dans les quatre versions, ça ne peut évidemment plus être le cas. Alors, passons directement à l'histoire. L'histoire est connue. Le roman va retracer la vie d'une pauvre enfant sur lequel le sort s'acharne. Plus elle fait preuve de noblesse de cœur et plus elle est récompensée par d'affreux malheurs. Parallèlement, les scélérats qu'elle rencontre sur sa route sont accablés par les bontés de la Providence. Mais elle ne va pas faillir et malgré les revers de fortune qu'elle va vraiment essuyer tout au long de sa vie, elle ne va jamais mettre en doute l'importance de se bien conduire ni la bienfaisance de l'être suprême. Pourtant, il y aurait de quoi se mettre à douter parce qu'elle va vraiment subir les pires tortures imaginables. Justine, ou les malheurs de la vertu, est truffée aussi de digressions à caractère philosophique. Les libertins que Justine rencontre tout au long de son chemin sont tous philosophes, qu'ils soient riches ou pauvres, instruits ou incultes. Ils sont tous en mesure de justifier par la raison leur scélératesse. Ils développent devant cet enfant ingénu qui ne peut la plupart du temps qu'opposer la vertu ou la certitude de son cœur, des systèmes de justification les mieux construits. Et parfois, ils réussissent même à construire des visions du monde tout à fait capables de rivaliser avec celle de l'Église. Mais l'œuvre est aussi philosophique pour une autre raison, et pas seulement dans certains épisodes, dans son ensemble. Saint lui-même place le livre sur le terrain de la philosophie, ou plus exactement même de la morale, par ce qu'il dit d'entrée de jeu dans sa dédicace, où il prétend que les tableaux du crime qu'il a peints rendent fier d'aimer la vertu et que c'est là le but de son roman. Voilà ce qu'il dit. Mais offrir partout le vice triomphant et la vertu victime de ses sacrifices, montrer une infortunée errant de malheur en malheur, jouer de la scélératesse, dans la seule vue d'obtenir de tout cela l'une des plus sublimes leçons de morale que l'homme ait encore reçue, c'était, on en conviendra, parvenir au but par une route peu frayée jusqu'à présent. Aurais-je réussi, Constance ? Une larme de tes yeux déterminera-t-elle mon triomphe ? Après avoir lu Justine, en un mot diras-tu « Oh, combien ces tableaux du crime me rendent fière d'aimer la vertu !» En même temps, malgré ce qu'annonce ici, son roman n'est pas pris pour une œuvre exaltant la vertu. Il fait au contraire scandale. Évidemment, il décrit avec force détail les scènes les plus osées, mais le récit que l'on lit est narré par Justine, qui est l'incarnation même de la candeur et la plus fidèle servante de la vertu. Est-ce que c'est déjà trop pour un ouvrage qui, de l'aveu de l'auteur même, est une œuvre moralisatrice ? Est-ce que c'est juste le nom de Sade qui nous empêche de lire cette histoire comme un ouvrage exaltant la morale? Apparemment, dans le texte, on a deux morales qui ne cessent de s'affronter. La morale religieuse, qui est morale de la vertu à laquelle tient Justine, et puis la morale libertine, qui apparaît défendue sous de nombreuses formes par les nombreux libertins qu'elle rencontre et par tous ses bourreaux en même temps. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas lire l'ouvrage comme l'affrontement justement de deux systèmes éthiques et regarder lequel, à la fin, finit par l'emporter? Est-ce que réellement la vertu triomphe à la fin comme ça le prétend? Rien n'est moins sûr, me semble-t-il. C'est vrai qu'à la fin, Justine est blanchie de tous les torts dont on l'accuse, qu'elle se retrouve heureuse auprès de sa sœur Juliette et de l'amant de celle-ci. Mais elle jouit assez peu du bonheur parce que la foudre lui transperce le cœur. Est-ce que Sade voit le triomphe de la vertu dans le fait que suite à cet événement, sa sœur, Juliette, dont le comportement fut bien moins exemplaire, et qui pourtant, elle jouit de fortune et de considération, va se convertir. C'est possible, mais ça reste particulièrement ambigu. D'ailleurs, tout l'ouvrage me semble très ambigu, et c'est peut-être le terme qui caractérise le mieux cette œuvre. Justine elle-même a des réflexions parfois qui sont particulièrement surprenantes pour l'innocence qu'elle incarne. Elle est naïve et candide à souhait, mais il lui arrive de faire preuve d'une ruse très subtile quand sa ruse même va l'amener plus directement à ses bourreaux et les exciter contre elle. Parfois, d'ailleurs, elle avoue son ambiguïté, comme lorsqu'elle affirme « Et je deviens, ainsi que vous le voyez, madame, catin par bienfaisance et libertine par vertu. » Et l'ensemble de l'ouvrage est écrit dans ce ton, qui rappelle d'ailleurs le projet même de Sade. Peindre la vertu punie et le vice récompensé pour exalter le sentiment moral de ses lecteurs. Est-ce qu'il est possible d'imaginer projet plus ambigu ? Alors, je vous propose quand même d'essayer de sortir de l'ambiguïté et de voir quelle morale traverse, quelle morale sort finalement de cette œuvre de Sade. Qu'est-ce qu'il prendrait à ce niveau-là ? Alors, repartons pour ce faire d'une lecture prenant à la lettre, dans un premier temps, le projet déclaré de Sade. Et tentons de voir si une telle lecture est possible. Est-il vraiment possible d'interpréter Justine ainsi ? Faisons l'hypothèse qu'elle défend la morale religieuse et les bonnes mœurs, et voyons si, donc, dans le roman, il y a des arguments solides pour ce faire. Le premier argument, on l'a vu, c'est l'aveu même de Sade. Il n'en démordra pas. À la fin du roman, il clôt celui-ci exactement avec un discours très semblable. « Ô vous qui répandîtes des larmes sur les malheurs de la vertu, vous qui plaignîtes l'infortunée Justine, en pardonnant les crayons, peut-être un peu forts, que l'on s'est trouvé contraint d'employer. Puissiez-vous tirer au moins de cette histoire le même fruit que Madame de Lorsange, c'est Juliette, hein, sa sœur. Puissiez-vous vous convaincre avec elle que le véritable bonheur n'est qu'au sein de la vertu, et que si, dans des vues qu'il ne nous appartient pas d'approfondir, Dieu permet qu'elle soit persécutée sur terre, c'est pour l'en dédommager dans le ciel par les plus flatteuses récompenses. » C'est une vue qu'il a dès la toute première version. Il y tient, il la reprend systématiquement. Mais est-ce que ça suffit à nous convaincre qu'il écrit là une œuvre moraliste ? Ce n'est pas évident, parce qu'il pourrait évidemment ouvrir et conclure son ouvrage, ou ses ouvrages de la sorte, pour donner un semblant d'acceptabilité à ses textes ou pour éviter des problèmes de censure, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que l'héroïne est particulièrement vertueuse et que tous ceux qui s'opposent à elle sont décrits de manière plus que déplaisante. Or, le héros peut habituellement aussi représenter le point de vue de l'auteur. D'ailleurs, Jacques Pontvert écrira un célèbre article où il affirmera que Justine, c'est Sade. Il n'est pas indifférent, me semble-t-il, que Justine soit présentée comme l'image même de la vertu, dont elle en est vraiment l'allégorie. Comment, après un tel portrait, parce qu'elle est peinte de manière tellement belle physiquement et moralement, est-ce qu'on n'aurait pas tendance, après un tel portrait, à aimer justement cette vertu qu'elle incarne? Mais en même temps, Sainte ne cesse de montrer la vertu punie et le vice récompensé, de sorte que l'effet qu'il produit, même s'il peut avoir une attirance pour la vertu, est aussi une certaine méfiance à son égard, parce que visiblement, dans le monde qu'il décrit en tout cas, il n'est pas bon et profitable d'être particulièrement vertueux. Est-ce qu'une telle lecture est défendable? Justine elle-même ne considère pas toujours l'attitude vertueuse comme l'accomplissement pur du devoir. Or, c'est la définition qu'à peu près à la même époque, Kant donne de la vertu. La vertu, pour Justine même, procure de la satisfaction. Justine va même parler à ce propos de jouissance, de volupté morale, pardon, de volupté qu'elle dit plus forte et plus subtile que les voluptés physiques dont se régalent ces bourreaux à son détriment. Si Justine ressent une consolation morale et même une volupté à ses actes vertueux, est-ce qu'elle reste l'incarnation de la vertu? Ce qui la conduit dans la vie diffère-t-il fondamentalement des motivations des libertins qui eux aussi agissent avant tout pour avoir un maximum de volupté? Autrement dit, le vice et la vertu, est-ce autre chose qu'une simple affaire de goût? Est-on libertin parce qu'on tire ses plaisirs des voluptés et des sensations physiques, et vertueux parce qu'on les reçoit des plaisirs moraux? Il serait peut-être déjà dangereux pour les bonnes mœurs, et évidemment pour la foi chrétienne, d'admettre cet axiome, mais il faut même encore réduire l'écart entre vice et vertu. Car les libertins que Sade peint se repaissent eux aussi d'un plaisir moral. Leurs plaisirs viennent davantage du crime que du sexe. Ils aiment transgresser les principes moraux de l'époque, beaucoup plus encore que leurs orgies. Et celles-ci ont toujours un but de transgression morale. Mais il y a encore d'autres arguments contre le caractère vertueux de l'œuvre de Sade. L'ambiguïté même de Justine, elle est l'éternelle victime, mais elle est aussi profondément masochiste, c'est-à-dire qu'elle prend plaisir à ses malheurs, elle en retire de la volupté. Et je vais vous donner quelques exemples de cette attitude très ambiguë. Au début du roman, sa sœur est âgée de 15 ans et elle de 12, et leurs parents meurent ruinés, de sorte qu'il leur faut quitter tous deux le couvent où elles ont été élevées jusqu'alors. Sa sœur, Juliette, qui est beaucoup moins vertueuse, se réjouit de sa liberté retrouvée et décide de devenir très rapidement une femme riche et entretenue. Justine se désole de l'attitude peu morale de sa sœur et la fuit aussitôt. Mais pourquoi la fuit-elle? Est-ce qu'il lui était impossible de rester vertueuse à côté de quelqu'un qui a une autre attitude? Est-ce qu'elle avait peur d'être contaminée? Et c'est encore d'autant plus étrange si on met cet épisode en parallèle avec celui du sieur Rodin, qui est un chirurgien qui abuse de sa fille et d'enfants qui sont mis en pension chez lui et qui leur inflige pour son seul plaisir des corrections à caractère sexuel. Parce que Justine connaît ces faits quand elle entre au service de Rodin et elle accepte la place, dans le but, dit-elle, de convertir le sieur Rodin et sa fille. Alors qu'est-ce qui, dans un cas, lui fait fuir ? Sa sœur, dont l'attitude ne serait pas suffisamment vertueuse, et d'autre part, lui permet d'accepter d'aller travailler chez ce chirurgien dont les pratiques sont bien moins acceptables du point de vue de la morale. Autre exemple, elle ne va pas cesser de raconter tout au long de l'ouvrage ses malheurs avec beaucoup de détails. Mais est-ce que c'est de la candeur ou de la perversité ? On peut imaginer au début qu'elle agit naïvement. Mais ça ne peut pas durer longtemps, elle ne peut pas ignorer pendant longtemps qu'elle excite de la sorte les libertins abusés d'elle. Des premiers épisodes avec Saint-Florent, elle incite visiblement ce jeune homme à lui ravir sa virginité qu'elle a réussi à préserver jusqu'à présent. Elle se place vraiment, vous allez voir, délibérément victime entre ses mains. Elle vient de le libérer. Elle lui dit « Pardon, partons, monsieur, partons. Vous voyez ce que je fais pour vous. Je me remets entre vos mains. Prenez pitié de mon sort. Ne soyez pas surtout plus cruel que ces gens-ci. Daignez respecter mon honneur, je vous le confie. C'est mon unique trésor. Laissez-le-moi, ils ne me l'ont point ravi. » Est-ce qu'il était nécessaire de préciser les choses à ce point et de lui suggérer comment il pouvait la persécuter? Or, prenons un autre exemple de cette ambiguïté si caractéristique. À la fin de l'histoire qu'elle décrit, elle est en prison, elle est accusée injustement de vol, d'avoir allumé un incendie pour favoriser son larcin et d'avoir jeté volontairement un enfant dans le feu. Elle risque la peine de mort et dans son cachot, au désespoir, elle fait appeler tous les libertins qu'elle a rencontrés dans sa vie pour leur demander leur aide et leur secours. Alors, pourquoi est-ce justement à eux qu'elle fait appel ? Elle qui sait, puisqu'elle en a été la victime, qu'ils sont beaucoup moins capables du moindre élan de générosité et de pitié que n'importe qui d'autre. Évidemment, ce qui devait arriver, va arriver. Ils vont tous abuser une dernière fois d'elle et puis ils vont la laisser à son sort. C'est évident. Si réellement, comme elle ne cesse de le dire, continuellement, son honneur lui tient plus à cœur que sa propre vie, pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas paisiblement son jugement et la mort qui peut en découler ? Est-ce qu'il est vraiment plus déshonorant d'être victime d'une erreur judiciaire que d'être l'objet des plaisirs des libertins les plus pervers ? Mais évidemment, si Justine n'est pas, il peut d'abord sembler une héroïne irréprochable, on peut peut-être imaginer qu'elle serait punie par la Providence parce qu'elle n'est pas aussi pure et vertueuse qu'elle y paraît. Il ne me semble cependant pas possible de défendre une telle conception. Parce que si elle est punie, elle l'est autant de ses bons mouvements et de ses actes vertueux que de ses attitudes plutôt perverses. Et par ailleurs, les scélérats qu'elle rencontre, eux, ne sont apparemment jamais punis pour leurs mauvaises actions et même ils sont souvent récompensée par la Providence. Il me semble donc que la thèse d'un ouvrage moraliste, même si elle ne manque pas d'arguments, ne manque pas non plus de réfutation. J'avais il m'avait semblé que deux systèmes moraux s'affrontent. Et est-ce que donc c'est l'autre système que défendrait Sade? Autrement dit, Justine Noé Malheureux d'Avertu ne serait-il pas un roman libertin tentant de défendre philosophiquement le libertinage? Et je vous propose d'essayer de regarder si cette interprétation tient la route. Un des premiers arguments pour le justifier, c'est bien sûr tous ces nombreux passages où des libertins justifient vraiment, sur base d'arguments philosophiques, leur pratique. Sade va en donner ainsi de nombreuses défenses qui sont toutes différentes, mais qui toutes me semblent mieux se tenir que le point de vue religieux défendu tant bien que mal par Justine, qui n'est quant à elle pas très philosophe. Un autre argument fort, me semble-t-il, par lequel Sade défend le libertinage serait cette idée qui est assez répandue au XVIIIe siècle de la relativité du vice et de la vertu. Ce qui, dans une société, est un vice, est indifférent dans une autre, ou y est même carrément une vertu. Inversement, bien entendu. Or, si le vice et la vertu ne dépendent que des conventions et des coutumes locales, les mœurs sexuelles ne sont pas davantage absolues. Il n'y a donc aucune raison d'en couronner certaines avec les lauriers de la vertu et d'autres avec les épines du vice. Et on pourrait voir là une justification profonde du libertinage. Ainsi que le fait que les libertins qu'ils présentent soient philosophes. Ils sont vraiment fils de la raison et habiles orateurs, quels qu'ils soient. Ce qui pourrait donner à penser que l'auteur fait d'eux les véritables héros du roman et qu'il défendrait sous différentes formes par leur biais les vertus du libertinage contre les inconvénients de la vertu. D'autant que le vice est sans cesse récompensé dans ce texte. Et que on pourrait donc avoir l'impression qu'on a là une œuvre anti-moraliste qui, au contraire d'exalter la vertu, la reléguerait au rang de sottise et de préjugé. Mais est-ce que tout devient clair avec une telle lecture? Ça permet en tout cas de comprendre l'attitude ambiguë de Justine. Elle est aussi une jouisseuse, mais d'un autre type, d'un ordre moral. Et ce faisant de Justine une libertine, Sade montre que la vertu est en fait simplement un type particulier de vice. D'ailleurs, certains libertins l'affirmeront, faire le bien est une forme d'orgueil. Cela provoque une jouissance. Et c'est bien pour ça que certains s'y adonnent, tout en prétendant qu'ils agissent purement, mais ce qui rend simplement leur jouissance plus hypocrite. Mais ça pose même problème, parce que si c'était ça, il suffirait de se servir du préjugé selon lequel tout ce qui est d'ordre moral est supérieur à ce qui est d'ordre physique pour replacer la vertu plus haut. Mais ça ne marche pas, puisque Justine est aussi une jouisseuse au sens physique du terme, avec son vice qui serait le masochisme. C'est d'ailleurs pourquoi elle va raconter sans cesse ses malheurs. Ça a un double effet. D'une part, elle peut ainsi tenter le diable, et en même temps, elle court Et d'autre part, elle peut se délecter de ses malheurs tout en les racontant, en les revivant ainsi. Et elle ne manque évidemment jamais de pleurer abondamment sur son histoire tout au fil du roman. Mais tous les éléments ne corroborent pas aussi facilement la thèse d'un roman libertin. Et il y a un des éléments problématiques, me semble-t-il, c'est la laideur des libertins. Ils sont montrés absolument abjects, tant physiquement que moralement. Et autant leurs victimes sont toutes plus belles les unes que les autres, on comprend pourquoi ils choisissent des victimes belles, évidemment, mais par contre, on ne comprend pas bien pourquoi eux doivent être horribles. Et c'est fait de telle manière que Sade empêche vraiment de nous les rendre sympathiques. Et comment est-ce qu'il pourrait faire adopter au lecteur les vues de ceux qu'il rend vraiment en si rébarbatifs et répulsifs, alors que les préjugés sociaux sont déjà en leur défaveur par ailleurs? Est-ce qu'il serait tellement sûr de convaincre par la seule raison qu'il se serait permis de montrer les libertins aussi défavorablement? Si c'était le cas, il aurait dû faire admirer non seulement les arguments et la rhétorique qu'ils utilisent, mais aussi les conséquences de leur conception. Or, il se garde bien de laisser le moindre doute à ce sujet. Les plaisirs dont il démontre si habilement le bien fondé, conduisent aux pires horreurs, et Sade s'étend longuement sur celles-ci. Pas un seul ne profite de ces plaisirs qui outragent les bonnes mœurs avec un partenaire consentant. Tous ont besoin de victimes, véritablement, et tous s'amusent largement de la douleur de celles-ci. Et n'hésite pas à recourir à tous les excès qui dépassent, me semble-t-il, les bornes acceptables à l'esprit le plus large. Coups et blessures, tortures, vampirisme, vivisection, meurtre, etc. Rien n'est négligé. Et en plus, on ne voit jamais chez un des libertins la plus petite étincelle de bonté. Ils ne prennent jamais en pitié leurs victimes ou même d'autres faibles dans le besoin dont ils n'auraient rien à tirer par ailleurs. Ils ne se montrent même pas reconnaissants envers leurs victimes, absolument pas. Est-ce qu'on peut vraiment prôner le libertinage en montrant les horreurs de celui-ci et en les Et Sade les décrit vraiment minutieusement, ces horreurs. Et c'est pourtant là le portrait des libertins que Sade dresse. Des aides dans les raisonnements se tiennent, mais qui commettent atrocité sur atrocité. Comment peut-on alors l'accuser de prôner une morale libertine? Que pèsent des raisonnements habiles à côté de tant d'horreurs qui vont vraiment frapper l'imagination? Il ne me semble pas possible de faire de ce roman, à cause de ça, l'apologie du libertinage. Bien plus que d'attirer le lecteur vers celui-ci, il lui démontre plutôt que même s'il en était séduit intellectuellement, il lui faudrait au contraire s'en garder avec le plus grand soin. Il n'empêche que ça ne veut pas dire pour autant qu'on a là une œuvre qui prônerait la vertu. Il y a peut-être une troisième voie. Le dessein de l'ouvrage, d'après Sade, c'est d'exalter la vertu en montrant comment celle-ci ne cesse d'être punie alors que le vice, lui, est récompensé. À travers pareils propos, on pourrait imaginer que l'intention de Sade serait de s'attaquer à la Providence et à travers celle-ci, bien entendu, à l'être suprême. Voyons s'il est possible d'interpréter l'histoire de la sorte. Ne fait pas de doute que la Providence divine est mise à rude épreuve. C'est à tel point qu'on se demande assez rapidement comment il est possible à Justine de continuer à croire en la bienfaisance de son Dieu et à attendre de lui les secours qu'il ne cesse de lui refuser. Non seulement Dieu n'aide pas Justine, qui pourtant se conduit selon ses commandements, mais il semble même, par la Providence, prendre plaisir à la mettre dans des situations les plus pénibles. Les scélérats, par contre, on l'a vu, eux, accomplissent leur larcin impunément et semblent même, en général, récompensés par le sort de leur comportement. Comment peut-on éviter de sentir là la puissance injustice dont est victime Justine et dont profitent les libertins? C'est à ce Dieu injuste et à la Providence, qui serait comme son bras droit, que Sade s'en prend. Dieu est injuste, crie-t-il dans son roman. La Providence divine frappe aussi bien le vertueux que l'infâme, ou plus exactement ici, elle semble punir le vertueux et récompenser le criminel. S'il en est ainsi, il faut donc choisir entre un Dieu méchant et injuste ou un Dieu absent. Il faut donc vouer un culte au diable ou se reconnaître athée. Justine, bien entendu, refusera ces alternatives et restera dans sa conception d'un Dieu bienfaisant. Mais Sade n'en reste pas là. Il ne néglige aucune arme contre Dieu. Il ne le tue pas une fois, mais 100 fois par la bouche de chacun des libertins. Dieu est bien entendu condamné pour son indifférence. Les libertins eux-mêmes vont sommer Justine de faire appel à son Dieu pour la tirer de leurs griffes, et bien entendu, il restera absent. Elle l'appelle en vain. Il est également condamné pour le mal qu'il permet. S'il est bon, comment admettre qu'il tolère le mal? Et s'il est tout-puissant, comment comprendre que le mal existe? Cette vieille problématique qui a fait couler beaucoup d'encre chez les théologiens est réutilisée par Sade abondamment, mais ici, bien sûr, pas du tout dans l'intention de sauver Dieu, mais de l'en accuser. Et Justine ne connaît même pas les justifications qu'ont pu donner les théologiens. Elle se débat tant bien que mal et elle est d'autant plus embarrassée que c'est à ses propres bourreaux qu'il lui faut répondre. Et que donc la situation dans laquelle elle se trouve plaît dans sa défaveur, bien entendu. Mais Sade va même encore aller plus loin dans son roman. Il va en quelque sorte sortir du roman. Il lui arrive à quelques moments de mettre une note, élément qu'on ne trouve habituellement pas dans les romans, pour expliquer que ce n'est pas le fruit de son imagination et que dans la réalité, à tel moment, à tel endroit, il y a eu des tortures bien pires perpétrées par telle ou telle personne. De la sorte, il montre que le Dieu qu'il attaque, ce n'est pas un Dieu de roman, que c'est bien le Dieu de la réalité, si on peut dire. Que c'est celui-là qui est injuste et qu'il faut refuser. Mais, autre argument, c'est bien sûr la destinée des protagonistes, les libertins étant systématiquement récompenser leurs victimes punies. Mais on peut peut-être ici relire les choses un peu différemment et remarquer que ceux qui sont punis, c'est systématiquement ceux qui croient en Dieu, alors que ceux qui sont récompensés, les libertins, eux, sont systématiquement athées. On a vraiment, on peut voir que les victimes vénèrent systématiquement Dieu et les bourreaux le rejettent toujours. Cependant, on l'a vu, le libertin ne représente pas non plus le point de vue de Saad. C'est pas un être idéal, loin de là. Or, le libertin, c'est le principal opposant à Dieu, à la religion et à Dieu. Comment est-ce que Saad peut donc faire admettre ses principes, leurs principes, ceux des libertins? D'autant qu'il dit à maintes reprises que la religion n'est pas affaire de raisonnement, mais de sentiment. Pourquoi donc attaquerait-il celle-ci par des raisonnements et négligerait-il les effets affectifs de la religion? Est-ce que ce n'est pas user d'une arme dont il connaît déjà l'inefficacité? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre sa stratégie si son but était vraiment de vaincre Dieu? De plus, il faut quand même remarquer que la providence, si elle est largement mise à mal dans le roman, n'en a pas toujours un rôle aussi négatif. On remarque, parce que c'est plus frappant, comment Justine tombe dans des situations particulièrement pénibles, mais on oublie que la providence ne cesse de la faire échapper saine et sauve de tout ça. Jamais elle ne meurt, alors qu'elle aurait dû le faire un nombre incroyable de fois. La providence qui lui fait rencontrer ses bourreaux va aussi lui faire rencontrer ses quelques protecteurs et même, à la fin, sa sœur. Donc, tout compte fait, la providence est peut-être aussi, vu d'une certaine manière, favorable à Justine. En tout cas, elle ne l'abandonne jamais et elle l'attire régulièrement de son triste sort. À la fin, elle semble même la favoriser quand elle retrouve sa sœur et que celle-ci peut, avec son amant, lui permettre de vivre heureuse. Or, bien sûr, elle est foudroyée, mais elle est au moment où elle devient mélancolique, comme si Justine était en fait incapable de supporter le bonheur. Et dans ce cas-là, que peut faire de mieux la Providence que de lui offrir une fin rapide et sans souffrance, plutôt que la laisser en vie dans une situation où elle souffrirait. Et le fait que Saad montre que la Providence punit les justes et récompense les mauvais empêche de lire, me semble-t-il, tout à fait le roman comme une révolte contre Dieu et la Providence. Parce que l'argument aurait été bien plus fort, parce que plus crédible, s'il avait fait une Providence indifférente au comportement humain. Et donc, s'il y a bien cet aspect, et que cette révolte contre Dieu et la Providence explique certains passages du ou des romans, il me semble qu'elle en laisse d'autres dans l'ombre. Est-ce que la position que semble défendre Saad ne serait pas plutôt celle d'une morale égalitaire, d'une morale sociale qui ne soumettrait plus le faible? La nature est mauvaise, montre-t-il, mais la société l'est autant, puisque plutôt que de rétablir la justice, elle renforce l'inégalité. La force physique qui est le principe de tyrannie de la nature est simplement remplacée dans la société par l'argent ou la position sociale. Celui qui a l'argent est au-dessus des lois. il peut se permettre de sacrifier d'innocentes victimes aux autels de ses plaisirs. On aurait donc là une présentation d'une morale égalitaire qui correspondrait avec la Révolution française. Dans son œuvre, en effet, les pauvres sont humiliés sans cesse. Justine ne tarde pas à s'en rendre compte. Hélas, c'est que je suis orpheline et pauvre. C'est que je n'ai plus de ressources dans le monde et que l'on estime les gens qu'en raison des secours et des agréments qu'on s'imagine en recevoir. Ils disent aussi, plus je devenais pauvre, plus j'étais méprisée, plus j'avais besoin d'appui, moins j'espérais d'en obtenir. Les pauvres sont vraiment des proies toutes trouvées pour les libertins. Il suffit souvent d'acheter leurs services pour les faire tomber dans n'importe quel piège. Mais il y a pire, non seulement les pauvres sont des proies bien faciles, mais ils ne peuvent même fort difficilement se plaindre. Ils sont toujours coupables aux yeux de la justice. Qu'un riche accuse un pauvre de vol, sa parole va vraiment être prise pour argent comptant, alors que le seul fait d'être pauvre est un mobile à tous les crimes. C'est ce qui arrive à Justine lors de ses aventures. Elle est employée chez un riche usurier, très avare. L'appât du gain de celui-ci fait qu'il demande à Justine d'aller voler son voisin. Elle va refuser. Mais pour se venger, son patron va prétendre qu'elle l'a volé. Bien entendu, il sera écouté puisqu'il est riche et elle, pauvre, ne sera pas du tout prise en considération. Les pauvres souffrent vraiment d'un préjugé à leur égard. Comme il dit, on croit la vertu incompatible avec la misère. Le préjugé est tel qu'il va être défendu par les riches comme par les pauvres. Il va justifier la supériorité de droit des riches et la mauvaise conduite des pauvres. Comme dit l'un d'eux, la dureté des riches légitime la mauvaise conduite des pauvres, que leur bourse s'ouvre à nos besoins, que l'humanité règne dans leur cœur et les vertus pourront s'établir dans le nôtre. Qu'à en perdre un pauvre, explique un scélérat qui est bien décidé à tout faire pour devenir riche. Parce que s'il se fait pendre, il reçoit la mort. Or, celle-ci n'est rien d'autre que la fin de ses misères. Par contre, s'il réussit, il sera riche et respecté. Tant que les lois n'atteindront pas les riches, elles seront nulles. C'est donc bien l'idée d'inégalité sociale qui favorise le vice et l'injustice. Un monde plus moral ne peut donc s'établir que dans une société juste et égalitaire. C'est également l'inégalité qui offre des victimes aux libertins, puisqu'il leur suffit de payer. Et aussi, les gardiens de la loi vont régulièrement abuser de ceux dont le sort dépend de leur clémence. On a donc bien là une morale qui serait bien proche de celle de la Révolution. Une nécessité d'égalité devant la loi. Que tous soient égaux devant la loi, qu'on abolisse les privilèges et le vice tendra à diminuer, car les pauvres ne seront plus forcés d'y tomber et les riches qui le commettent seront aussi passibles de peine. Une telle lecture offre une bien meilleure compréhension de bien des passages du roman. Pourtant, il n'explique pas tout. Il y a certains autres passages qui me semblent poser problème. D'une part, cette lecture est basée sur la faiblesse des victimes, qui seraient toutes pauvres et misérables. Mais les victimes ne sont pas toutes pauvres. dans un des épisodes, il y a un couvent où on a des moines qui abusent, qui font enlever des jeunes filles riches et bien considérées, et celles-ci ne sont donc pas pauvres et ils abusent d'elles. Justine est vraiment une exception, c'est vraiment parce qu'elle s'est jetée dans la gueule du loup une fois de plus. Et les moines libertins insistent sur le fait qu'ils prennent volontairement des jeunes filles riches et de bonne famille parce qu'il faut qu'elles soient pleurées, que le crime sera plus complet si la désolation a lieu aussi dans les familles en question. Et puis, autre argument en défaveur de cette lecture, c'est le fait que les libertins s'intéressent au crime, vraiment. Ils aiment le crime, ils prennent plaisir à transgresser les lois. Ils auraient moins de jouissance s'ils ne pouvaient pas transgresser les lois. Mais dans cette conception, si on développe les lois pour que tous y soient soumis, comme c'est proposé dans l'idée d'une morale sociale égalitaire, est-ce qu'on ne va pas au contraire favoriser le vice parce qu'il y aura plus de préceptes à transgresser? Augmenter les lois pourrait donc avoir l'effet de favoriser le libertinage. D'autre part, l'idée d'un vice et d'une vertu relatif s'accorde fort mal avec l'idée d'une morale universelle, comme c'est revendiqué à la Révolution. Et puis, on peut aussi soupçonner une certaine réserve de sa part à l'égard de la Révolution dans une torture d'un libertin qui s'amuse à l'aide d'une petite guillotine à trancher la tête de ses victimes quand il en a abusé. Il me semble que Sade est évidemment plus enthousiaste des idéaux de la Révolution qu'il ne l'est de ceux de l'époque qui la précède. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il prône la morale sociale égalitaire ou que ça constituerait vraiment la clé du roman. Et ce contre-argument pourrait aussi amener à défendre l'idée d'une morale ou d'une vision anarchiste de la société qu'il prendrait, mais comme beaucoup d'autres morales qu'on pourrait défendre là-dedans. Mais je ne crois pas qu'il soit encore permis de découvrir vraiment la morale de l'histoire de Justine. Et en même temps, il est difficile de ne pas voir dans Justine une œuvre morale, autant au moins qu'une œuvre romanesque. Ce ne sont pas tant les héros qui s'affrontent que leur conception morale. Et personne ne remporte véritablement la joute à la fin. Mais aucune conception n'est non plus définitivement éliminée. Et je me demande si ce n'est pas là que se concentre en fait la morale de l'œuvre, dans cette espèce de glissement, dans l'idée que il n'existe jamais une seule morale, que l'une ne se justifie pas mieux qu'une autre, et qu'il faut donc éviter que l'une d'entre elles soit défendue comme la seule acceptable. Je voudrais encore aborder rapidement deux petites questions. Quelle impression produit la lecture de Justine et cette impression est-elle bien d'ordre moral? Le lecteur découvre l'histoire d'une jeune enfant terriblement croyante, honnête et droite dans ses actes, même si elle est parfois un peu ambiguë. Il voit cette jeune fille sur laquelle le sort s'acharne vraiment. Mais les épreuves que le destin lui envoie sont d'une nature particulière. Elle rencontre des êtres humains pervers qui la prennent comme objet de leur plaisir. Plaisir essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement d'ordre sexuel. À cela s'ajoute le fait que les bourreaux libertins justifient par le raisonnement leurs actions et tentent d'en convaincre Justine, ce qu'ils ne réussiront évidemment jamais. Raconté de la sorte, le lecteur ne peut que prendre en pitié la pauvre Justine et s'horrifier des atrocités qu'on lui fait subir. Mais ce n'est pas du tout l'effet que provoque le roman. Le lecteur n'a pas du tout tendance à s'identifier dans Justine ou à identifier ses enfants en elle. Ou bien, me semble-t-il, il n'entre pas dans l'histoire et elle l'ennuie, ou bien il va plutôt s'identifier au bourreau et s'amuser des tourments que l'auteur a fait subir à celle-ci. Et c'est en ce sens que l'on peut parler de sadisme du roman. Pas tant parce qu'il y aurait des actes sadiques qui seraient décrits, mais parce que par la manière dont il écrit et dont il raconte l'histoire, ça place le lecteur dans cette position du sadique, de celui qui éprouve un plaisir de cet ordre à la lecture du texte. Étrangement, le lecteur va vraiment se retrouver du côté des bourreaux. Et si on a une œuvre morale, c'est peut-être parce qu'il révélerait justement qu'il y a un bourreau qui sommeille en chacun de nous. Et c'est vraiment produit, non pas par l'histoire, mais par la manière dont elle est contée. C'est évidemment un effet tout à fait inattendu et assez perturbant pour le lecteur. Parce qu'il lui montre qu'il prend plaisir aux tortures, alors même qu'il lui en fait une description horrible et que, évidemment, rationnellement, il va les condamner. On a vraiment une espèce de perturbation dans le système moral des lecteurs, comme s'il l'amenait à devoir se remettre en cause sa morale, parce qu'évidemment, il se dit qu'il a beaucoup de bons principes, mais comment se fait-il alors qu'il condamne intellectuellement tout ça, il puisse prendre plaisir aux tortures infligées à l'héroïne. Et il empêche aussi, par ce jeu de glissement, me semble-t-il, de réadopter purement et simplement une autre morale. On aurait donc une importance au niveau moral par ce jeu de glissement et par cette perturbation. Pour terminer, je voudrais juste rapidement vous faire écouter une chanson du début du XXe siècle où on voit bien comment on prend position pour la victime, on peut ressentir cela plutôt que par le héros. Ça y est, c'est une vieille chanson que vous connaissez peut-être du début du 20e, 1908. Le lendemain, elle était souriante. Voilà, c'est le son qui était beaucoup trop bas.
Un jour, une petite châtelaine enlevée par des Romains Michel fut mise dans une chambre malsaine tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosa des petites lacrapotes avec de l'eau de son petit arrosoir. Les brigands furieux de la voir rire lui attachèrent les mains, les pieds, puis par ses cheveux la pendirent au plafond en face du plancher, puis la laissant là, les voyous allèrent chez le bistrot boire un coup. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosa ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Les bandits jaloux de son courage la prennent comme un diplodocus, l'achètent du 23e étage, son corps tombe devant l'autobus. L'autobus qui n'attendait que ça, sur la belle aussitôt passa. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir.
Donc, vous voyez, ici, on a vraiment, me semble-t-il, un système un peu semblable, parce qu'on éprouve à la lecture de Justine ou Les Malheurs de la Vertu, on devrait aussi prendre pitié de la jeune fille en question, mais on s'amuse beaucoup de ses malheurs. Bien sûr, ils sont d'un autre ordre, mais on a quelque chose du même ordre. Voilà, j'ai respecté presque le temps que j'impose à mes intervenants. Si vous avez des questions ou des remarques, pour autant que je parvienne à y répondre. Merci, parce que je ne suis pas une spécialiste de ça.
Voilà, s'il y a des questions.
Je dirais, comme d'habitude, je dois toujours dire quelque chose. Mais alors, en ce qui concerne Sade, bon, je dirais que Sade ne m'est pas inconnu. Et il y a deux choses sur lesquelles j'insisterai. La première, il est né d'une famille qui est parmi les plus nobles de France. Donc il est né dans le luxe et il est né dans cette aristocratie dans laquelle il a grandi. Il a fréquenté des collèges bien pensants, du moins pour l'époque, puisqu'il a été à Louis le Grand, etc. etc. Hein? Et ensuite, un deuxième élément qui est important, et c'est là, à mon avis, ce qui rend sa personnalité si intéressante, c'est qu'il revendiquera, et je crois que c'est un des seuls pour l'époque, il revendiquera le fait d'être athée. Et il le revendiquera à plusieurs occasions, d'ailleurs. Hein? Donc je crois que là, c'est déjà un fait. Et lorsque on parle, en plus de cela, il est bien égalitaire, il est bien démocrate, mais il n'est pas féministe du tout. La femme est un objet, enfin c'est du moins la lecture que j'en ai, est un objet qui ne compte pas dans la société. C'est un objet de plaisir, hein, et elle ne compte pas, ou très très peu, dans la société. Alors encore une chose, bon, parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce moment-là, le fait de vous concentrer sur Justine ou Les Malheurs de la Vertu est tout à fait remarquable. Et je crois que c'est à la lecture de cela, et en sachant que Sade est un athée, et que bien entendu, en tant qu'athée, il ne va faire aucune place, je dirais, à la Providence et à Dieu, il doit bien entendu, lui, trouver des formules qui remplacent Dieu, puisque en dehors de Sade, tous les autres sont pratiquement déistes. Pas tous ceux, ils ne se déclarent pas religieux, mais très souvent déistes. Ici, il se déclare athée et il doit trouver des solutions. Donc, dans cette optique, on comprend parfois mieux certaines positions qu'il prend, certaines explications qu'il donne et vis-à-vis des libertins, parce qu'il doit absolument et dans toutes circonstances se différencier des bien-pensants, dirais-je. Donc pour se différencier des bien-pensants, ben, il est obligé pratiquement d'écrire, comme on dirait maintenant, des horreurs. Hein. Alors ce siècle connaît trois grands libertins. Il y a Sade, il y a Casanova, et il y a, bien entendu, Choderlos de Laclos. Bon. Quand on les lit tous les trois, finalement, on se rend compte que les mœurs de l'époque étaient les mœurs que décrit Sade dans ses livres, et pas uniquement dans Justine et les malheurs de la vertu, mais dans tous les autres livres qu'il a également écrits, les 120 jours de Sodome, etc. etc. Bon. Donc je crois que Sade ne va rien chercher. D'ailleurs, il écrira un jour à sa femme, « Je suis un libertin, je le reconnais, j'ai conçu tout ce qu'on pouvait concevoir dans ce genre-là, mais jamais je n'ai fait, enfin je cite de mémoire, jamais je n'ai fait cela et je ne le ferai jamais. » Donc en fait, pour Sade, ça reste de la fiction, fiction dont il a pris, si vous voulez, des éléments dans la société qui l'entoure. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bon, beaucoup de choses. Trois choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord. Hein. Chez Sade, ça se place au niveau de l'imagination, une jouissance par l'imagination en grande partie. Et s'il n'était pas en prison, il ne se serait pas réjoui de mettre tout ça en pratique. Par contre, deux choses. Sur l'athéisme, il y a un autre athée qui va vraiment se revendiquer comme tel, c'est le baron d'Holbach, à la même époque, qui lui va vraiment défendre l'athéisme encore peut-être plus directement que Sade. Alors, sur le féminisme, je voudrais nuancer les propos. Parce que dans l'œuvre de Sade, on a d'autres romans où on a vraiment une éducation sexuelle des jeunes femmes. Et dans ce cas-là, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque, c'est qu'il y a vraiment un droit à la jouissance et à la maîtrise de son corps sur le plan sexuel aussi pour les femmes. Et ça, c'est un aspect qui le rapprocherait du féminisme. Et dans d'autres œuvres, les femmes peuvent avoir une position sociale et ne sont pas nécessairement négligées et laissées ou simplement utilisées comme objet. Elles peuvent prendre les choses en main et mener leur destin. Ça dépend d'une œuvre à l'autre. Dans celle-ci, beaucoup moins évidemment, mais il y a aussi cet aspect-là. On en discute peut-être en privé pour laisser à d'autres l'occasion d'intervenir également. J'espère en tout cas avoir réussi à vous convaincre qu'il vaut la peine de le lire aussi d'un point de vue moral.